Dimanche passé, on a eu une très belle et merveilleuse étude. Un des points qui m'a vraiment marqué, c'est l'ajustement fin de l'univers. L'ajustement fin de l'univers. Comment Dieu a créé les choses de façon si parfaite. Et on sait que le chef-d'œuvre de Dieu, et de loin le plus important d'ailleurs, c'est l'homme. L'homme et la femme sont dotés de la capacité de penser, de choisir, d'être capables d'avoir des émotions, de décider, de planifier. Et aujourd'hui, l'homme veut tout décider à sa guise. L'homme choisit de décider qui doit naître et quel fœtus doit mourir. L'homme choisit démocratiquement son sexe et comment librement il voudrait jouir de sa sexualité. L'homme décide même qui doit mourir, quand mourir et comment mourir. Et ce matin, c'est ce sujet que nous voulons toucher. Leçon 9, l'euthanasie, suicide assisté ou mourir dans la dignité. Alors, on va commencer par quelques définitions. Euthanasie, ça vient du grec ancien, « e » qui signifie « bon », et « thanatos » qui signifie « mort ». Donc, tout simplement, l'euthanasie serait avoir une mort douce. Autre définition, donner la mort à quelqu'un afin d'abréger ses souffrances. C'est ça, l'euthanasie. L'acte du tiers est la cause directe du décès. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui met fin à la mort de la personne qui souffre. Une définition qui nous vient d'un tribunal de première instance. L'euthanasie, c'est la cessation intentionnelle de la vie d'une personne par une autre personne pour abréger ses souffrances. Donc, pour abréger les souffrances de la première personne. L'acte médical consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient afin de soulager ses souffrances en administrant une dose létale. Quand on parle de dose létale, c'est la dose qui achève, qui donne la mort, qui met fin à la vie. OK, on a parlé de l'euthanasie. Voyons, c'est quoi le suicide lui-même? C'est se donner soi-même la mort de façon volontaire et intentionnelle. Ici, là, on se trouve dans un cas où le meurtrier et la victime, c'est la même personne. Et là, quand on parle de suicide, on parle bien de se donner la mort de façon volontaire et intentionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je décide de me nourrir en mangeant un certain plat et que je ne sais pas que ce plat me rend malade, que je meurs, ce n'est pas un suicide parce que je n'avais pas l'intention de mourir. Mais quand je sais que c'est un poison, que je le prends et que je meurs, là, c'est un suicide. Donc, il y a l'aspect volontaire et intentionnel. C'est quoi le suicide assisté? On parle de suicide assisté. On dit c'est offrir les connaissances ou les moyens à quelqu'un pour l'aider à mourir. Plus clairement, l'aide médicale à mourir, qu'on connaît très bien ici au Québec, consiste en l'administration de médicaments par un médecin à une personne en fin de vie, à sa demande, dans le but de soulager ses souffrances. On va revenir beaucoup sur la notion de souffrance. En entraînant son décès, le recours à ce soin est strictement encadré et balisé par la loi. Alors, ce qui suit, je l'ai pris directement sur le site officiel du gouvernement du Canada. Deux catégories d'aide à mourir s'offrent aux Canadiens. Chacune d'entre elles implique soit un médecin, soit un infirmier praticien, qui, dans le premier cas, administre directement une substance qui provoque la mort, telle que par l'injection d'un médicament. Et cette méthode est appelée méthode nommée dorénavant aide médicale administrée par un clinicien. Donc, ça, c'est la première méthode pour mourir, selon l'aide médicale. C'est le clinicien qui donne directement une substance qui provoque la mort. La deuxième méthode, je le dis encore, ça, c'est le site du gouvernement du Canada. Donc, chaque mot vient de ce site-là. La deuxième catégorie pour l'aide à mourir, c'est que le clinicien, c'est-à-dire le médecin ou l'infirmier praticien, il donne ou il prescrit un médicament que la personne admissible, parce qu'il y a des conditions pour être admissible, que la personne admissible prend elle-même afin de provoquer sa propre mort. Et cette méthode est nommée dorénavant aide médicale à mourir auto-administrée. Donc, il y a beaucoup de termes techniques là. Mais la première méthode, C'est le médecin qui donne une substance qui provoque la mort. C'est ce qu'on appelle l'euthanasie, si on regarde les définitions que nous avons vues tantôt. Et la deuxième méthode, c'est la personne elle-même qui prend la substance, sous prescription évidemment, afin de provoquer sa propre mort. Là, c'est un suicide. Et techniquement, c'est un suicide assisté. Mais au niveau officiel, on l'appelle aide à mourir auto-administrée. Quand on parle d'aide à mourir, c'est un problème humain parce qu'il s'agit bien de mort d'hommes, de femmes comme nous. Ce n'est pas l'intention des sauterelles. C'est aussi un problème personnel parce que selon la loi, quand quelqu'un est admissible, que cette personne décide de demander l'aide à mourir, que vous soyez son père, sa mère, son époux, je ne sais pas, son frère, son cousin, vous ne pouvez rien changer à sa décision. Seulement la personne elle-même peut décider de changer de décision. Ce n'est pas un problème banal également, c'est un problème très sérieux. Vous voyez les chiffres? Les chiffres sont éloquents, éloquents. L'aide à mourir a commencé officiellement en 2016. Donc, en 2016, on a eu 1018 morts. Nombre total de décès attribuables à l'aide à mourir. En 2017, on est passé à 2800. On a doublé les chiffres. Bon, on peut comprendre parce qu'en 2016, ça a commencé à partir de juin. En 2018, on est à 4400. Donc, on est une augmentation de près de 40%. 2019, 5600. 2020, 7595. Pourquoi on n'a pas les chiffres de 2021? Parce que c'est un total qui est fait sur l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Et là, comme nous ne sommes pas encore au 31 décembre, mais il est fort probable qu'en 2021, on ait touché les 10 000, parce qu'avec la progression qu'on a, c'est fort probable. Quand on regarde les chiffres, si on fait un total, jusqu'en 2020, on avait comme nombre total de décès attribués à l'aide médicale à mourir, 21 589 personnes. Pour moi, ce chiffre est très élevé. Quelqu'un peut l'interpréter et trouver que c'est relativement bas, mais moi, je trouve qu'il est très élevé. Pourquoi? Parce que quand on prend la COVID dont on parle et qui est là présentement, en 2 ans, la COVID, en tout cas, selon les chiffres que j'ai de fin novembre, pour tout le Canada, on est autour de 30 000 personnes décédées. Et avec l'aide à mourir, on va dire que c'est un bilan sur 5 ans, mais 21 589, c'est vraiment très élevé. Ce n'est donc pas un problème qui est banal, c'est un problème très, très, très sérieux. Mais comment nous sommes arrivés là? Parce que les chiffres commencent en 2016. Parce qu'avant 2016, ça n'existait pas, l'aide à mourir. Enfin, ce n'était pas légal. Il faut dire qu'en 1892, quand on a introduit le code criminel au Canada, le suicide et la tentative de suicide, c'était des infractions pénales. Et si on trouve que c'est une infraction pénale, autrement dit, ça veut dire que ce n'est pas bien. C'est mal. Ça, c'est mon interprétation des choses. Sinon, on ne va pas dire que c'est une infraction pénale. Environ 90 ans plus tard, le suicide sera décriminalisé, mais le suicide assisté, il est resté illégal. Et d'ailleurs, quiconque est reconnu coupable d'avoir conseillé une personne à se suicider, l'avoir aidé même, est coupable d'homicide. Et il encourait jusqu'à 14 ans de prison. Ça veut dire que la loi considérait que c'était grave d'encourager quelqu'un à se suicider. Et là, nous sommes en 1972. Et puis, les choses vont progresser. En 1982, arrive la Charte des droits et libertés, qui est la première partie de la Constitution canadienne. 8 ans après l'arrivée de la Charte, donc en 1990, quelque chose va se produire. Sue Rodriguez soumet au tribunal une requête pour avoir droit au suicide assisté. La personne est souffrante de sclérose latérale amyotrophique, donc qui est une maladie très grave, mais sa requête est rejetée par la Cour suprême. Et Rodriguez n'est pas d'accord, fait appel, va voir la Cour. Tantôt, je parlais de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, donc elle va faire appel, et la Cour d'appel de la Colombie-Britannique va rejeter encore cette requête. La personne va aller jusqu'à la Cour suprême du Canada, qui va encore rejeter cette requête. Ça veut dire déjà, en 90, tout le monde était d'accord pour dire que le suicide assisté, c'est pas bon. Parce qu'on voit trois juridictions de renom qui disent non. Finalement, M. Rodriguez se suicidera en février 94, aidé par un médecin anonyme et en présence du député qui défendait sa cause. Là, les choses commencent à prendre forme. En 2011, qui n'est pas loin, il y a juste 10 ans, la British Columbia Civil Liberties Association, BCCLA, intente une action en justice pour demander le suicide assisté pour deux clients, pour deux, au nom des familles Kekater et puis Gloria. Et là encore, ce sera un combat juridique. Mais dès qu'ils se présentent au niveau de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, cette fois-ci, on leur donne le OK. C'est correct pour le suicide. Et le gouvernement fédéral qui était là en son temps a dit non, c'est pas normal, c'est pas légal. On refuse ça. Donc, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique va casser la décision et dit ce n'est pas correct, ce n'est pas légal. Le débat juridique va continuer jusqu'à la Cour suprême du Canada. Mais pendant ce temps, les lignes vont bouger. Parce qu'en 2014 déjà, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, les États de l'Orango, Washington et Vermont ont déjà les législations pour le suicide assisté. Donc, ça commence à influencer un peu déjà le Canada au niveau de la Cour suprême. Même en décembre 2015, la loi de l'aide médicale à mourir entre en vigueur au Québec. Pour les personnes majeures consentantes qui souffrent d'une maladie incurable et qui présentent un déclin avancé irréversible, tantôt on va revenir sur ce mot, irréversible, des capacités qui éprouvent des souffrances insupportables. Finalement, en juin 2016, le Parlement du Canada a adopté une loi fédérale qui permet aux adultes canadiens d'être admissibles s'ils veulent demander l'aide médicale. Et tout près, encore de nous, là, le 17 mars dernier, la loi a encore changé, il y a une modification pour élargir, parce que les conditions étaient tellement, selon ceux qui veulent demander l'aide, les conditions sont trop strictes, donc il faut élargir. Et le gouvernement a modifié pour élargir ceux qui sont admissibles. On peut constater que les lois humaines sont instables. D'ailleurs, sur la poussée populaire, sont à géométrie variable. Tantôt, on a vu qu'avant, on a dit ça, c'est pas bon, c'est pas correct, c'est illégal. Aujourd'hui, c'est correct. Dans le temps et dans l'espace, quand on prend quelques États aux États-Unis, d'un État à un autre, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct. Ça, ce sont les lois humaines. Quand on a légalisé le suicide assisté, c'était par interprétation juridique du droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne. Juste pour rappel, à cause du droit à la vie, le Canada a enlevé la condamnation à mort parce qu'on a dit que ça, c'était une façon légale de tuer quelqu'un. Parce qu'on dit qu'il a droit à la vie, on ne peut pas le condamner à mourir. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec la même charte des droits et libertés, droit à la vie, on peut permettre aux gens de mourir? Parce qu'il y a une nouvelle interprétation qui dit que c'est droit à la vie décente. Donc, si tu trouves que ta vie n'est pas décente, bon, tu peux y aller. Donc, on voit que l'éthique de l'homme, ça change. Est-ce qu'on est en train de progresser ou on est en train de régresser? Ce qui est mal aujourd'hui, demain n'est pas mal. Ça devient même légal et c'est encouragé. Voyons un peu les arguments qui sont avancés pour encourager le suicide ou pour la voie légalisée. Non? La douleur. Ça, c'est le premier argument. On le voit dans plusieurs tests. Des personnes qui éprouvent des souffrances constantes et insupportables. On sait aussi qu'on a fait de grands progrès en matière de prise en charge des douleurs. Mais on dit, si on ne peut pas, on ne peut pas faire grand-chose pour toi, ou si tu dois prendre constamment des choses, des calmants, tu pourrais demander le suicide assisté. La réflexion qu'on peut, on peut faire, c'est on n'encourage pas les gens, et notamment les jeunes, à aller se suicider parce qu'ils se sentent mal, parce qu'ils ont une douleur émotionnelle ou bien psychologique ou bien même quelqu'un qui souffre. Mais en quoi le suicide assisté, l'aide à mourir, est une exception? Le deuxième point qui est mis en avant, c'est la liberté, le droit inaliénable que quelqu'un a. Et je donne cette phrase qui m'a frappé, John Stuart Mill. Il dit, je suis libre, libre de vivre à ma guise, libre aussi de mourir à ma guise. Mon corps est à moi, j'en fais ce que je veux. Aujourd'hui, le slogan moderne et plus populaire, c'est ma vie, c'est ma mort, c'est mon choix. Je fais ce que je veux. Mais à l'opposé, la pensée chrétienne, je ne suis pas propriétaire de ma vie. Je ne peux pas dire que je suis libre de vivre à ma guise. Non. Je ne suis pas le propriétaire de ma vie, j'en suis le gestionnaire. Le troisième élément qui est mis en avant pour justifier le suicide assisté, c'est la qualité de vie. On sait qu'avec le progrès et tout ça, maintenant, l'espérance de vie est élevée, donc les gens vieillissent avant de mourir, mais avec le vieillissement aussi vient la diminution des capacités, et ça, c'est ce qui encourage le suicide aujourd'hui. C'est lié aussi avec la dépendance et la dignité. Ça, on va mettre l'emphase dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'élément clé. Quand quelqu'un est dépendant totalement pour ses besoins primaires, il ne peut pas manger, on doit le nourrir, on doit l'habiller, au niveau de ses toilettes, il trouve déjà qu'il a perdu toute sa dignité, donc il préfère s'en aller. Quand il n'a plus le contrôle de ses vessies, bien des personnes, et d'ailleurs, c'est la pensée populaire, trouvent que c'est une situation humiliante et c'est comme si on a perdu la qualité, la dignité. Je regardais une vidéo d'une dame, une Française, 74 ans. C'est une dame qui n'a rien, elle se porte très bien. Elle a juste 74 ans. Et puis, elle a déjà signé pour mourir par euthanasie. Pourquoi? Parce que, selon elle, elle a peur qu'avec l'âge, elle va perdre l'autonomie. Elle va être admise dans un mouroir, selon elle. C'est comme ça qu'elle appelle. Et puis, elle ne veut pas être infantilisée et même torchée. Donc, déjà, elle a signé à quelle date on doit lui faire l'euthanasie. Elle souffre d'aucune maladie grave. Donc ça, c'est de voir un peu comment la notion de dignité qui soutient le suicide assisté aujourd'hui. Un des points qu'on ne dit pas souvent, mais qui a une grande valeur dans ce choix, c'est le coût. Parce que la prise en charge médicale de certaines maladies incurables, mentales, ou totalement invalidante, coûte très cher et très cher au système de santé. Donc, on ne dira pas que c'est pour de l'argent qu'on demande aux gens de s'en aller, mais ça reste quand même vrai. Je donne cette citation à un philosophe qui s'appelle Marie Warnock, parce que c'est une dame. Elle dit ceci, « Quand on est sénile, on gâche la vie des gens de l'entourage familial et on gaspille les ressources des services de santé. » On gaspille les ressources des services de santé. Alors, si quelqu'un veut absolument et désespérément mourir parce qu'il est un poids pour sa famille ou pour l'État, je souligne l'État, donc, Le suicide assisté, ce n'est pas parce que les gens veulent forcément la dignité, mais on trouve qu'il coûte cher quand même. Alors, je pense qu'on devrait l'autoriser à mourir. C'est-à-dire, si c'est un poids pour l'État ou pour les ressources de santé, on devrait l'autoriser à mourir. D'ailleurs, examinons l'aide à mourir sous l'angle biblique, au regard de la Bible. Première chose que je voudrais dire, c'est que tout ce qui est légal n'est pas forcément biblique. Ce n'est pas parce qu'une chose est légale que je dois choisir cela. Ce n'est pas forcément biblique. D'ailleurs, dans Daniel chapitre 6, il y aura l'édit royal où on dit que désormais, jusqu'à un temps donné, on n'adore personne d'autre que le roi. C'est seulement le roi qu'il faut adorer. Ça, c'était légal et classé, clair et net. Et Daniel a trouvé qu'il ne va pas adorer le roi, même si c'est légal. Ce n'est pas parce que l'aide médicale à mourir est légale que je devrais le choisir. Non. Je suis chrétien, je dois examiner les choses à la lumière de la Bible. Deuxième chose, c'est que la vie humaine a du prix aux yeux de Dieu. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est la seule créature de Dieu. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. De loin, le plus important de la création de Dieu, l'homme créé à l'image de Dieu. Donc, quand l'homme est malade, il ne devient pas un animal qu'il faut euthanasier. Quand l'homme est malade, qu'il est complètement dépendant, qu'il ne peut même pas bouger, quelquefois, le français courant dit « Oh, c'est un légume. » Ce n'est pas un légume. Il n'est pas une chose. C'est un être humain créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Examinons la notion de liberté. Est-ce qu'en tant que chrétien, je suis libre de mourir par suicide assisté ou par euthanasie? C'est vrai que la pensée populaire dit « c'est ma vie, c'est ma mort, c'est mon choix, je suis libre ». D'ailleurs, au nom de la liberté, on sait qu'il existe des clubs d'échangistes, ils vont échanger leurs époux, leurs épouses, des clubs de nudistes. Au nom de la liberté, on peut choisir quel fœtus doit mourir ou quel fœtus doit vivre, c'est le choix, l'avortement. Au nom de la liberté aujourd'hui, je peux choisir mon sexe. Et je peux en faire ce que je veux, comme je veux. Je ne sais pas si dans quelques années, bientôt, au nom de la liberté, on va aller au travail, à l'école et dans le commerce, tout nu, comme on veut. C'est la liberté. On y va. Bien-aimé, aimer Jésus et être son disciple, c'est choisir de lui obéir. C'est ça, être chrétien. Choisir d'obéir au maître pour la vie et pour la mort. Il dit, si vous m'aimez, garderez mes commandements. Jean 15, 10. Voilà ce que Jésus dit. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est dire, je ne suis pas libre de vivre ma vie comme bon me semble. Qu'il se charge de sa croix. La croix, ce n'était pas un beau jouet. Une décoration, la croix au temps de Jésus, quand on parlait de la croix, on savait qu'il allait au supplice et que c'est la fin de la vie de celui qui est crucifié. Donc quand il dit qu'il se charge de sa croix, il est en train de dire, je dois renoncer à moi-même, je dois oublier mes droits, je dois oublier ma liberté, je m'aligne sur le maître. Je suis son disciple, je marche en le suivant lui, non en faisant ce qui me plaît, comme bon me semble, non. Suivre Jésus, c'est aussi un choix personnel, comme on dit l'aide à mourir. Est un choix personnel. Suivre Jésus, c'est un choix personnel, parfois difficile, mais le Seigneur nous assiste avec son esprit et on peut y aller. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je ne peux pas dire c'est ma vie, c'est mon corps. Si je pense que j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas mon corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Quand vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Christ a rappelé dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 28, il a rappelé ceci, tu ne tueras point. Mais à cela, il a ajouté l'enseignement d'un amour exemplaire. C'est le top niveau de l'amour. Oui, il dit, vous avez entendu dire que tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, celui qui va dire raca, qui va dire insensé à son frère. Donc, tuer, c'est pour Jésus, le chrétien doit pas tuer, mais il doit aller même plus loin. Aimer au point de ne pas faire sortir des injures de sa bouche. Donc, si je ne dois pas gérer, comme bon me semble, le souffle du langage qui sort de mes lèvres, à plus forte raison, je ne vais pas gérer, comme bon me semble, le souffle de vie que Dieu a mis en l'homme. C'est le standard élevé avec Jésus. Le chrétien ne doit pas tuer. Il ne doit pas tuer, ni ôter la vie à quelqu'un, ni se suicider lui-même, même si c'est légal. C'est ma conviction. Et je pense que c'est ce que la Bible nous enseigne. Si je ne dois pas tuer quelqu'un, je ne dois pas me tuer moi-même. Parce qu'un suicide, c'est me tuer moi-même. Comme on l'a déjà dit, ma vie ne m'appartient pas, j'en suis le gérant. C'est Dieu qui est le boss. D'ailleurs, l'Ecclésiaste dit au chapitre 7, verset 8, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, pourquoi je vais terminer ma vie par un meurtre, par un suicide? Pourquoi? Quel témoignage je devrais laisser? Comme ça, la fin de ma vie. La conclusion de ma vie, c'est le suicide. Parlons de la question de dignité qui est mise en avant. La dignité, par définition, c'est le sentiment de valeur intrinsèque d'une personne qui commande le respect d'autrui ou sentiment, le sentiment que quelqu'un a de sa propre valeur à lui. Donc, ça peut être le sentiment qu'il a de sa propre valeur à lui. Quelqu'un qui perd sa santé, son autonomie et le contrôle de ses fonctions vitales, n'est-il pas un être humain digne? Ou bien il est-il juste digne pour la mort? Le problème, c'est que la société donne aujourd'hui une image normative de la dignité. Et cela pousse l'homme à se suicider quand il se trouve dans l'humiliation, il se trouve dans l'échec, il se trouve dans la dépendance totale, qui est considérée même comme une déchéance. Il dit, oh, je suis plus digne. Pourquoi? Parce que la société nous pousse, donne une image. Ça, voilà ce qui est digne. Voilà ce qui est normal, ça c'est humain, à part ça tu n'es plus humain. Tu es juste bon pour la mort. Mais la dignité dans la mort, ça ne commence pas aujourd'hui. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, même si aujourd'hui c'est un beau costume légal. Ça a toujours existé. Est-ce qu'on se souvient de ce qu'on appelle harakiri? Le vrai mot c'est... C'est beaucoup, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais du 12e siècle au 20e siècle, au Japon, c'était l'acte d'honneur et de dignité, ça. Un samouraï qui est vaincu et qui n'a aucune possibilité d'échapper à ses ennemis, il enfonçait son épée dans son ventre et il mourait dignement. Aujourd'hui, on va dire, oh non, ça c'est bavard, il faut laisser un médecin te donner une mort douce et belle. Ça, en leur temps, c'était la dignité. Même dans la Bible, quand le roi Saül s'est trouvé fait et qu'il était découvert par les archers, il savait que sa mort s'en venait, qu'est-ce qu'il va dire? 1 Samuel chapitre 31, versets 4 à 5. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Saül ne voulait pas des outrages, il voulait rester le roi digne. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus pour mourir dignement. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Il est mort dignement aux côtés du roi. Est-ce là la dignité? Peut-être nous, aujourd'hui, on va dire, « Oh non, non, ça, c'est pas, c'est trop barbare, ça. Il faut quand même une substance médicale bien analysée et puis tu meurs doucement. D'abord dans ton sommeil et puis tu t'en vas. » Ahithophel, c'est peut-être pas un nom très familier pour certains. 1 Samuel chapitre 17, Ahithophel, c'était un grand conseiller. Un grand conseiller. Il a été conseiller de David pendant longtemps. Et même quand le fils de David, Absalom, va se révolter contre David, il va passer dans le cas d'Absalom. Donc, il va conseiller Absalom. Au temps de David, on dit Ahithophel, le conseil d'Ahithophel valait comme si on avait consulté Dieu lui-même. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 17, le dernier verset. La phrase est claire, que quand Ahithophel te donnait un conseil, c'est comme si tu avais consulté Dieu lui-même. Et quand Absalom va se révolter contre son père et qu'Ahithophel va aller soutenir Absalom, le fils, plutôt que David, le père, Ahithophel va donner un conseil à Absalom, un conseil vraiment très avisé. Mais Dieu va faire échouer ce conseil. Donc, Absalom ne va pas suivre le conseil d'Ahithophel. Oh là là, ça c'est inadmissible pour Ahithophel. Comment lui, le grand Ahithophel, on peut ne pas écouter son conseil? Ah, c'était l'humiliation totale, la désolation. La seule chose qui lui restait, c'était une mort digne. Il est rentré chez lui, il a donné ses ordres et il s'est suicidé. La dignité, là, on peut la pousser tellement loin que un sénateur français qui s'appelle Henri Caillavé, il allait même jusqu'à demander qu'on puisse euthanasier tous les enfants handicapés. Voilà où la dignité peut nous pousser. Et voilà une de ses phrases. Il dit, permettre à un enfant handicapé de venir au monde est une faute parentale. Et peut-être même le témoignage d'un égoïsme démesuré. Donc, autrement dit, il ne faut pas permettre à un enfant, quand on a déjà vu médicalement que quand il va naître, il va être handicapé, il faut l'avorter. Mais si jamais il est venu au monde, il faut l'euthanasier. Heureusement que c'est un sénateur français. Heureusement que ces propositions de loi ne sont pas passées. Mais c'est là, ça nous permet de voir où la dignité, quand on pousse le pion loin là, où on peut arriver. Il faut éviter d'établir des niveaux de dignité et de catégoriser les humains parce que lui, il est malade, parce qu'il ne bouge plus, parce qu'il est entièrement dépendant, il n'est plus digne. Non, il reste un humain créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. D'ailleurs, l'histoire nous montre que chaque fois qu'on a catégorisé les hommes, on est tombé dans la bassesse où des meurtres ont suivi. Et je ne vais pas revenir sur l'histoire, parce que ce serait terrible. Cela dévalorise la vie et ça met une pression sur les personnes âgées, les personnes qui sont malades de façon chronique. Parce qu'on leur dit, ah, c'est comme si, il faut savoir qu'il y a un papier là, tu peux le signer, et tu peux t'en aller. Ça met une pression sur lui. S'il ne veut pas s'en aller, c'est comme s'il était en train de gaspiller les ressources de santé, là. Mais c'est un choix libre. D'ailleurs, une étude a montré que dans l'État de Washington, 61% des personnes ayant mis fin à leur jour ont indiqué qu'une des raisons de leur choix était le souci d'être un fardeau. Donc, c'est là que la dignité nous pousse. On va dire que c'est un choix libre, mais finalement, c'est une pression que les gens sentent et ils font ce choix-là. On a vu les chiffres, comment ça grimpe. Hein? Le bilan, c'est que en 2020, le 21 000, sur 5 ans, on n'est pas loin de rattraper ce que toute la COVID a fait en 2 ans, 30 000. Notre défi en tant que chrétien, c'est d'aimer chaque personne et d'être disposé à accompagner cette personne de façon appropriée. Ceux qui souffrent, nous devons leur montrer notre affection. Ça, c'est un défi en tant que chrétien. La valeur d'un humain ne se mesure pas à ses capacités. Donc, s'il est devenu trop dépendant, il n'est plus valable. Non? Ça ne se mesure pas à sa réputation ou à sa dignité à ses propres yeux même, la valeur d'un humain, c'est une valeur intrinsèque en tant que créature faite à l'image de Dieu. D'ailleurs, pour qui Christ a donné sa vie? Christ n'a pas donné sa vie pour les animaux, les sauterelles, les chiens, même si on trouve qu'ils sont importants. Il a donné sa vie pour les hommes. La souffrance et la douleur ne doivent pas nous conduire au suicide, bien-aimés. Quand Job a tout perdu, on connaît l'histoire de Job, et quand il est devenu très pauvre et malade, sa femme lui a conseillé ceci. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Maudit Dieu et meurs. C'est tellement instantané. Tu maudis Dieu et tu meurs. Est-ce que c'était la seconde qui suivait? Est-ce que son état était tel que s'il finissait de maudit Dieu, Dieu allait le foudroyer, il allait mourir? Mais je ne sais pas si sa femme pensait à ce qu'il finisse de maudit Dieu qui se suicide, là, ou si elle était disposée à lui donner un petit poison s'il avait besoin d'aide. Et Job a dit non. Il est resté dans son intégrité, attaché à son Dieu. Et nous, aujourd'hui, entre l'aide à mourir et la parole de Dieu, qu'est-ce que nous choisissons? Même si, de façon citoyenne, nous sommes libres. L'enfant de Dieu sait que la mort, ce n'est pas la fin de tout. Parce qu'après, l'éternité nous attend. Donc, il ne serait pas disposé à prendre une dose létale qui met fin à sa vie, même si c'est légal. C'est vrai qu'il ne faut pas aussi être disposé à un acharnement thérapeutique, c'est-à-dire un traitement par tous les moyens, et même le traitement te fait souffrir et tout ça, parce qu'on sait qu'on est enfant de Dieu, on sait qu'on ira auprès du Père. Donc, dans la prière avec la famille, le chrétien doit prendre la sage décision, même dans les cas complexes. Parfois, le médicament devient trop éprouvant, difficile, et puis, on connaît des cas où la personne dit, OK, j'arrête, je suis épuisé avec ce médicament, ça me fait souffrir. Ça. Je laisse tout au Seigneur et puis qu'il prenne ma vie quand il en décide. Parce qu'il sait qu'après la mort, il va vers son Père. Il y a aussi les cas complexes, on parle de principe de double effet, c'est-à-dire que la personne est très malade et peut avoir besoin de médicaments pour apaiser sa douleur. Mais ce médicament-là peut être aussi dangereux et pourrait, à la longue, le tuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dire, OK, comme le médicament pourrait te tuer, reste là, souffre seulement. Si tu dois mourir dans 5 ans, continue à souffrir jusqu'à ce que tu meurs dans 5 ans. On va décider sagement, OK? On va prendre le médicament, et si Dieu dit il va mourir, il va mourir. Si Dieu dit il va bien se porter, mais il faut faire la différence entre l'intention et la conséquence. L'intention, c'est de soulager. La conséquence, il pourrait se porter bien ou il pourrait mourir. Ce n'est pas la même chose que je prends un poison pour mourir. Là, l'intention, c'est carrément de mourir. Ça, c'est le suicide. J'aime bien ce que Vaughan Robert a écrit. Il dit, les médecins, avec l'aval de la famille proche, peuvent, dans l'intérêt du patient, prendre la décision d'arrêter l'assistance respiratoire ou d'administrer les antidouleurs à haute dose. Ils peuvent estimer qu'une telle action raccourcirait probablement la vie du patient, mais là n'est pas l'intention. Le patient succomberait peut-être, par exemple, à la surdose de morphine nécessaire pour effacer la douleur. Mais ici, l'objectif n'est pas de tuer, mais de soulager la souffrance. Donc, sagement, on peut prier. On n'a pas le temps, je voulais donner un témoignage en août 2010, où on a dû prier pour dire, Seigneur, fais ton œuvre. Si tu veux guérir, tu guéris. Tu peux reprendre la personne. Et le Seigneur, il fait son œuvre. Le danger ici, c'est que c'est l'effet domino. La loi commence au départ, c'est illégal. Après, ça devient légal parce que ça prend plusieurs pays. Ça commence par ceux qui sont admissibles. C'est quand ils sont en phase terminale, quand ils ont une douleur insupportable. D'ailleurs, même, il y avait la condition, la mort naturelle doit être raisonnement prévisible. C'est-à-dire, un médecin va dire, OK, il va mourir d'ici 3 mois, t'entends. Donc, lui, il va dire, OK, moi, au lieu de souffrir pendant 3 mois, je vais... Donc, ça, c'était la condition initialement. Mais finalement, ces conditions changent. Il n'est plus nécessaire d'être atteint d'une maladie mortelle ou d'être même en phase terminale pour être admissible à l'aide à mourir. Les Canadiens qui ont comme seule maladie une maladie mentale. Ils ne sont pas éligibles, mais jusqu'au 17 mars 2023, ils pourraient être éligibles. Donc, seulement avec une maladie mentale, ils peuvent demander. On risque de l'étendre, même à ceux qui ont une détresse psychologique. D'ailleurs, aux Pays-Bas, il y a eu, en 2016, rapporte un journal, c'est que le gouvernement était en train de préparer un droit au suicide assisté pour les gens ayant le sentiment d'avoir accompli leur vie. Si tu penses que tout est correct dans ma vie, j'ai accompli ma vie, moi je veux m'en aller, tu n'es pas malade, tu es correct, mais tu dis, moi je veux l'euthanasie parce que je pense que j'ai accompli ma vie. Heureusement, la loi a été abandonnée. Mais c'est pour voir comment est-ce qu'on peut glisser au fur et à mesure. En Belgique, on a commencé par l'euthanasie des gens qui sont majeurs, c'était ça la condition. Et finalement, on a glissé aujourd'hui à l'euthanasie des mineurs, avec condition. Il est souhaitable de mourir âgé, paisiblement entouré de sa famille. Ça, c'est ce qu'on souhaite, même avec une douce musique qu'on peut choisir. Mais en réalité, c'est Dieu qui doit décider pour la vie et pour la mort. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 dit ceci : L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Seul lui a le droit. Bien-aimés, certains chrétiens sont morts dans leur sommeil, paisiblement. D'autres sont morts par accident. J'en connais un qui est mort par crash d'avion. Certains sont morts par maladie. D'autres sont morts torturés, assassinés. Hein? Jean-Baptiste est mort décapité. Certains sont morts dévorés au temps de Néron. Certains sont morts sciés, comme dit Hébreu. Certains sont morts brûlés vifs. Chrétiens ont été persécutés, brûlés vifs. Certains sont morts par noyade. Et certains sont morts très âgés, rassasiés de jour. Et pour tous ces cas-là, le monde dira, oh, c'est pas digne telle mort ou telle mort. Mais c'est quoi le plus important? Que ce ne soit pas digne selon le monde, le chrétien, peu importe comment il s'en va, il rentre dans la présence de Dieu. C'est ça toute la différence. La Bible dit qu'elle a du prix aux yeux de Dieu la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, verset 15. Une chose qu'on ne dit pas et que je voudrais souligner, c'est que l'aide à mourir, ça donne une mort douce au corps, mais l'âme. L'âme peut être troublée, souffrante, pendant qu'on dit il meurt doucement. On ne sait pas ce que vit son âme, à cause de la culpabilité du péché qui n'est pas réglée. Donc, l'aide à mourir ne peut rien faire pour l'âme. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pourquoi on parle juste de la mort, mais on ne pense pas au jugement? On met le focus sur la mort, mais pas au jugement, parce qu'on ne veut pas y penser. Mais bien aimé, je pense qu'il faut y penser. On ne peut pas penser seulement au corps, parce que l'homme n'est pas que corps. L'homme est âme et esprit aussi. Il faut y penser, maintenant. Parce que la mort, c'est la porte de l'éternité. Amos 4, 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et si tu n'es pas encore chrétien, tu dois donner ta vie à Jésus. Sinon, tu n'es pas prêt à mourir. Même si on t'injecte quelque chose pour une douce mort, l'âme. Alors, je voudrais conclure par ceci, le temps avancé. On dit que l'aide à mourir, c'est un choix personnel. Tu ne peux pas influencer quelqu'un. Et quand il a décidé, tu ne peux pas, il est admissible, tu ne peux pas changer. À moins que lui-même, il retire. Alors, je dis ceci. Moi, je dis non à l'aide à mourir. Je ne veux pas finir ma vie par un acte qui, selon moi, n'est pas la gloire de Dieu. Parce que 1 Corinthiens 10, 31 dit, quoi que vous fassiez, quoi que vous buviez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce se suicider, est-ce à la gloire de Dieu, même si c'est légal? Cela ne m'apportera ni la dignité ni la pureté que demande la Bible dans Philippiens 4, 8. Au reste, frère, que tout ce qui est honorable, pur, digne de louange, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Comment je peux penser au suicide assisté? Est-ce qu'il fait partie de ce qui est digne selon Dieu? Et comme je l'ai dit, ma vie appartient à Christ. Ma mort a du prix aux yeux de Dieu. Quand je rendrai mon dernier souffle, je serai dans la félicité de Dieu, dans la félicité divine. Alors pourquoi mon dernier témoignage sur la terre devait être de me suicider moi-même, même si c'est légal. Amen. Que Dieu nous aide. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous voyons que cela prend de l'ampleur, l'aide à mourir. Père, tu connais les conditions que les uns et les autres vivent. Nous voulons encore te prier que tu touches les cœurs, Seigneur. Que ceux qui sont sans espérance, sans espoir, Seigneur, tu les visites par ton évangile et qu'ils voient la lumière que tu es, le salut que tu donnes. Merci de nous donner à chacun de nous, à ton peuple, Seigneur, de discerner ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Au nom de Jésus. Amen.